On termine notre émission avec notre segment En route vers Rio. Chaque semaine, on vous présente une série d'entrevues avec des acteurs importants dans justement la délégation de ces Jeux paralympiques d'été qui auront lieu à Rio de Janeiro, au Brésil, en septembre 2016. Et on vous fait aujourd'hui, on vous présente un athlète, Marco Di Spaltro, joueur émérite de Boccia. Bonjour.
Allô, Maxime, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Top shape.
Top shape. Justement, on disait que vous venez tout juste de remporter l'argent au 33e défi sportif Altergo. Félicitations.
Merci beaucoup. Ça, c'est avec ma partenaire Alison Levine, puis aussi avec Yuliane Chobanou.
C'est pas votre première récompense. Vous avez quand même un bon parcours d'athlète, plusieurs médailles dans ce sport. Mais c'est pas votre premier sport paralympique. Vous avez une bonne carrière d'athlète derrière vous.
Ouais, moi, j'ai commencé dans mon odyssée sportive en fauteuil roulant en 1993 avec le rugby en fauteuil roulant. Puis, tu sais, dans mon cas, moi, c'est une maladie dégénérative. Fait que plus que je vieillis, plus que j'ai de la difficulté. Fait que souvent, les gens vont dire, ah, ça doit être terrible, ça. Mais pour moi, écoute, ça m'a donné trois défis complètement différents dans ma carrière. Tu sais, j'ai passé du rugby en fauteuil roulant, qui est un sport très physique, au tennis, qui est un sport quand même physique, mais il n'y a pas de contact. Puis ensuite de ça, ben au boccia maintenant. Puis entre tout ça, ben entre ma carrière de rugby puis de tennis, j'ai pris comme un sabbatique de 8 ans pour coacher. Mm-hmm. Fait que ça remplit bien des années, tout ça.
On touche à plusieurs facettes du sport, justement. Vous, une retraite, ça vous intéresse pas. À la place, vous changez de sport. Donc, vous êtes maintenant au boccia. Pouvez-vous nous décrire le sport?
Ben, le boccia, c'est un sport de précision. Ça ressemble un peu à la pétanque, là, mais nous, on essaye d'apparenter ça plus un peu au curling puis aux échecs. Au curling, parce que c'est quand même c'est un élément de précision. Fait que nous, on lance une balle blanche sur le terrain, puis l'adversaire est soit en rouge ou en bleu, puis nous aussi, on est en rouge ou en bleu. Puis ensuite de ça, on essaie de s'approcher le plus possible du cochonnet, de la balle blanche. Puis ensuite de ça, moi, j'apparente ça, comme je disais, aux échecs un peu, parce qu'il faut toujours penser comme 2-3 mouvements d'avance.
Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Ce qui rejoint le curling aussi, comme vous le mentionnez.
Oui, voilà.
C'est un sport qui se joue en équipe?
Ça se joue en individuel, puis aussi, dans notre cas, nous, c'est en paire. Fait qu'il y a comme... fait qu'en individuel, ben, c'est un contre un, puis en paire, ben, c'est 2 contre 2, puis on a le droit aussi d'avoir un substitut.
Est-ce que vous jouez, des deux manières? Avez-vous des compétitions à la fois en individuel et à la fois en paire? Vous l'avez mentionné, ce que vous avez gagné au défi sportif, c'était avec une autre joueuse.
Oui. Fait que ça dépend des compétitions. La plupart des compétitions, toujours la compétition en paire qui commence en premier, puis ensuite de ça, c'est la compétition individuelle. Comme au jeu paralympique, il va y avoir la compétition en paire pour débuter. Puis ça, le Canada, on est classé 6e. Mais on est quand même une jeune équipe. Addison, ça fait pas tellement longtemps qu'elle joue. Fait que les espoirs sont vraiment tout permis là, pour Rio, même si on est 6e. Nos chances de podium sont excellentes. Puis en individuel aussi, ben écoute, moi je suis 5e mondial, puis Addison n'est pas trop loin derrière. Fait que nos chances de médaille aussi aux Paralympiques en individuel vont être bonnes aussi, je crois.
Vous savez depuis mai 2015 que vous serez aux Paralympiques cette année. Dans les compétitions que vous faites en fait depuis un an servent de préparation. Est-ce que ça sert à observer les autres athlètes? Comment est-ce que vous travaillez votre stratégie?
Ben écoute, observer les autres athlètes, là, comme tu vois actuellement, là, l'Asie commence à être très, très forte. Fait que c'est important. On les a vus récemment au championnat du monde individuel au mois de mars en Chine. Fait que parce qu'on n'a pas beaucoup la chance de les voir en action parce qu'ils se déplacent très rarement. Fait que ça a été une belle occasion pour nous de voir un peu ce qui était rendu leur jeu. Puis vraiment là, ce qui depuis 2015, écoute, puis on fait l'envie un peu d'autres sports paralympiques. Eux, même certains sports qu'ils ne connaissent même pas encore, là, si les athlètes individuels vont comme en natation, en athlétisme aussi, il y a des sports qui sont en attente encore. Fait que nous, on le sait au mois de mai 2015. Fait que ça nous donne amplement de temps là, pour nous préparer là, pour les Jeux paralympiques.
Mm-hmm. Justement, ce ne sont pas vos premiers Jeux. Vous avez entre autres participé à Athènes en 2004. Donc, vous en avez quelques-uns derrière la cravate. Comment est-ce que vous envisagez ces prochains Jeux qui s'en viennent?
Tu sais, souvent, on se dit, ben, tu as fait tes premiers Paralympiques, les deuxièmes, bon, ce sera pas sentiras pas les mêmes papillons puis tout ça, mais les papillons sont toujours là. Tu sais, quand tu arrives dans les cérémonies d'ouverture, tu as 80 000 personnes qui hurlent. Tu n'as pas autre choix que d'avoir des papillons. Puis moi, ça, je me sens encore comme un enfant là, quand je suis à ces jeux-là.
Ça doit être effectivement très, très... très intense, très spécial à vivre. On peut le décrire, mais donc il n'y a rien de comparable à justement défiler aux côtés d'autres athlètes de d'autres nations, de d'autres pays. Qu'est-ce qui vous a amené vers le boccia? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce sport?
Ça a été une lutte acharnée entre le coach et moi, parce qu'en 2004, il m'a approché pour la première fois, mais moi, je venais du rugby en fauteuil roulant, qui est un sport très physique, puis très robuste, puis on est un peu macho, puis on se dit, bah, c'est le boccia quand même, voyons donc, c'est pas un sport de contact, là, ce sera pas pour moi. Finalement, en 2010, ben, j'ai dit, ben, je vais fermer la gueule de mon entraîneur, puis je vais l'essayer, son sport, puis ça a été l'amour au premier lancer, ça a été vraiment extraordinaire, puis je me suis dit, hey Marco, pourquoi t'as pas commencé ça avant, mais écoute, je l'ai commencé en 2010, puis ça va super bien, puis...
Quels sont vos défis par rapport à ces autres sports plus physiques ou plus de contact que vous avez fait avant?
Ben moi, la plus grosse transition que j'ai eue au boccia, là, c'est de quand c'est l'adversaire de lancer, on peut pas parler. Puis mon rugby, ben j'étais notoire un peu, je parlais toujours, je parlais aux adversaires, je parlais aux arbitres. Puis des fois, c'était pas toujours gentil, là. Fait qu'au boccia, c'est vraiment là, de la fermer, puis de quand c'est autour de l'autre, c'est vraiment un sport là de. C'est un sport d'éthique, là, un peu comme le golf. Fait que. Il faut être vraiment, quand c'est aux autres de jouer, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait puis laisser le champ libre à l'adversaire.
Est-ce que c'est un sport qui demande beaucoup de concentration?
Énormément. Puis moi, ce que j'adore du boccia, c'est un sport qui est très inclusif parce qu'on a des joueurs là, avec des handicaps hyper sévères qu'on s'imagine pas qu'ils sont capables de tirer des balles. Puis on a une autre division aussi pour des athlètes qui sont incapables de propulser une balle, qui jouent à quelle rente. Au rugby, puis même au tennis, t'as quand même, tu peux te reprendre souvent. Dans le cadre de 2 sets ou même de 3 sets au tennis, tu peux te reprendre. Mais au boccia, une mauvaise balle, ça pardonne pas. Fait qu'il faut vraiment, chaque lancer, être au summum de sa concentration. Puis aussi, moi, je fais quelques parallèles, tu sais, un peu avec les sports de tir à l'arc, les sports de pistolet, il faut vraiment être capable de contrôler sa respiration pour être en mesure de se calmer le plus possible pour lancer les balles.
Mm-hmm. Vous le mentionnez, c'est un sport inclusif à la fois au niveau du handicap, mais c'est aussi un sport mixte et c'est plutôt rare dans les compétitions.
C'est rare, puis écoute, dans le boccia, avec le type de maladie qu'on a, tu sais, les femmes sont aussi avantagées physiquement que les hommes. Fait que souvent, on parle toujours de cette différence-là là, dans les autres sports. Pourquoi il n'y a pas personne, une femme qui joue au hockey professionnel? Mais au boccia, c'est vraiment inclusif parce que, comme Allison, physiquement, sur le circuit du boccia, c'est une des joueurs les plus fortes, peu importe le sexe. Fait que c'est vraiment un sport inclusif. Puis les femmes ont vraiment leur place au plus haut niveau, au même niveau que les hommes.
Marco Di Spaltro, vous êtes dans le parasport depuis longtemps. Est-ce que le grand public connaît mieux qu'avant les performances des athlètes? Est-ce que les médias couvrent davantage le parasport?
Mieux qu'avant, mais il y a toujours un élément de progression qu'il faut emmener d'année en année. Fait qu'on espère vraiment qu'en 2016, là, qu'on va avoir une meilleure couverture. Puis aussi que les gens comprennent qu'on est des athlètes là à temps plein. Hein. Tu sais, moi, même si mon corps ne permet pas de faire des poids et haltères, tu sais, je suis quand même sur le terrain de boccia 20 heures par semaine. Je fais de l'aérobie, je fais du vélo stationnaire. Fait que, tu sais, vraiment, c'est un job à temps plein. C'est 40 heures semaine. Puis ça serait le fun d'avoir souvent la même reconnaissance là, que les athlètes olympiques ou même les athlètes professionnels. Mm-hmm. Parce que vraiment, le sport amateur, on fait ça pour l'amour de la chose. Puis le sport amateur pour personnes handicapées, ben c'est encore plus ça parce qu'on a vraiment des commanditaires sur le compte-goutte. Puis les reconnaissances publiques aussi, c'est pas pour ça qu'on est là-dedans. On est vraiment dans le sport pour l'amour du sport.
Mm-hmm. En terminant, Marco, qu'est-ce qui s'en vient pour vous d'ici septembre 2016?
On a beaucoup d'entraînement. On est très choyé maintenant parce qu'on est à l'Institut national de sport du Québec. Fait que c'est un institut qui est extraordinaire. C'est à la fine pointe de la technologie. On côtoie des athlètes paralympiques, des athlètes olympiques, puis aussi des jeunes qui sont en devenir aussi là, dans les sports. Fait que c'est vraiment extraordinaire pour ça. Puis ensuite, on a le Portugal qui va être notre dernier tune-up, si on veut, là, avant les Paralympiques. Puis essentiellement, mais c'est beaucoup d'entraînement puis quelques tournois seuls.
On vous souhaite vraiment la meilleure des chances pour Rio. Marco Di Spaltro, joueur émérite de Boccia, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
Merci à vous. Merci.